l'église, hein, dans cette phase de son histoire, c'est les enfants. On est content qu'il y ait plein d'enfants. Je vous invite à ouvrir la Bible dans la lettre de Paul aux Colossiens. On va continuer notre série dans ce livre. Colossiens, dans un instant on va lire à partir du chapitre 1, verset 24, pour un peu de contexte. Je voudrais juste vous rappeler un petit peu là où on en est. Les chrétiens de Colosse ont entendu l'évangile par Épaphras, pas directement par Paul en fait. Épaphras, il avait entendu l'évangile par Paul à Éphèse, et puis il est retourné dans sa ville natale, il a annoncé l'évangile à ses voisins, ses amis, ses connaissances, les personnes qu'il a trouvées dans la rue, qui voulaient bien l'écouter, et voilà qu'une église est née à Colosse de son ministère. Et elle est née, cette église, parce que la grâce de Dieu a été à l'œuvre dans ces personnes, pour les faire naître de nouveau. Et il y a trois marques distinctives d'un chrétien né de nouveau. On les a vues au début, c'est la foi en Christ, l'amour pour les autres frères et sœurs, et l'espérance. Et Paul prie pour que les chrétiens de Colosse grandissent plus dans la connaissance de cet évangile, parce que c'est là que se trouve la puissance d'un changement pour une vie de disciple. Alors Paul commence à exposer l'identité unique de Christ, sa suprématie, son rôle de premier rang dans l'ensemble de la création, comme on vient de le rappeler ce matin, et non seulement dans la création comme en général, mais tout particulièrement dans l'Église. Ça veut dire qu'on est directement concerné, nous, ici, ce matin, qui sommes l'Église de Jésus-Christ, ici, à Carillon. Ce qui était vrai au premier siècle pour les chrétiens de Colosse, ça reste vrai aussi pour nous. Dieu a choisi Jésus pour tout réconcilier avec lui-même. Christ, alors, il est suprême pour commencer notre vie, mais il reste suprême aussi pour opérer la sanctification. Si vous cherchez un thème ou un mot-clé pour réfléchir un peu à ce que ce passage qu'on va voir ce matin, c'est ce mot-là, la sanctification, la marche avec le Seigneur Jésus. Cette sanctification qui nous mène à la gloire. Et on est appelé à ne pas mettre notre confiance dans autre chose que Christ, autant pour commencer notre vie chrétienne que pour aller jusqu'au bout de notre vie chrétienne. Il faut demeurer dans la foi au Christ et vivre dans l'union avec lui. C'est ce que l'apôtre Paul invite les chrétiens de Colosse à faire et ce qu'on va lire nous-mêmes, donc à partir de Colossiens chapitre 1, verset 24. L'apôtre Paul qui parle et dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux, en effet, que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à la Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de tort, je suis avec vous en esprit, et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. On va s'intéresser plus spécialement au chapitre 2, versets 1 jusqu'à 7. J'ai lu un peu avant pour qu'on ait du contexte aussi dans la pensée de Paul. Et vous avez remarqué, l'apôtre Paul il commence en disant « Je veux que vous sachiez quelque chose de très important. » Apparemment, c'est important pour lui que les chrétiens de Colosse sachent que Paul est dans un combat, qu'il est dans un combat pour eux. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que Paul veut qu'il sache ça? Est-ce que c'était peut-être pas assez évident? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un peu insister sur ça, de mettre ça en avant? Alors voici quelques-unes des raisons que j'ai pu penser. D'abord parce que si vous êtes chrétien, et imaginez la même chose pour les chrétiens qui sont à Colosse, qui reçoivent cette lettre, où la vie n'est pas toujours rose, parce qu'à l'extérieur il y a des persécutions, peut-être de la part de la famille, peut-être de la part des amis, des collègues du travail, quand ils vont marcher, parce qu'ils ne vont pas chercher la viande au même endroit que les autres, parce qu'ils ont certaines pratiques qui sont un peu différentes des autres. On a bien repéré qu'ils sont chrétiens. Et cette pression-là, elle n'est pas toujours facile à vivre. Alors, ils savent qu'il y a un combat. Et peut-être aussi parce que, même dans l'église, des fois c'est pas très sûr. Il y a des gens, apparemment, qui sont rentrés dans l'église de Colosse, qui commencent à annoncer une sorte d'autre évangile, ça ressemble un peu à l'évangile, mais c'est pas tout à fait l'évangile, c'est pas exactement comme Épaphras en a parlé, mais en même temps, des fois il y a du vocabulaire qui ressemble, il y a des choses qui sont là. Et c'est un peu une tension des fois aussi, de savoir qu'est-ce qu'il faut croire vraiment, dans quoi est-ce qu'il faut vraiment mettre sa confiance, est-ce qu'il faut écouter ces gens, pas trop les écouter. Et si les chrétiens de Colosse ont vécu ça, peut-être c'est aussi notre expérience à nous, ici à Carême. On sait qu'il y a un combat. Il faut rester ferme dans la foi. On sait que vivre la vie chrétienne, ce n'est pas toujours simple. Alors Paul veut qu'ils sachent que lui-même est dans ce combat-là, pour les assurer que s'ils ressentent eux aussi le combat, c'est normal. L'apôtre Paul, quand il avait implanté toute une série d'églises là en Asie mineure, la Turquie actuelle, il est retourné, après on lit ça dans Actes 14, pour visiter toutes ces églises nouvellement implantées. Et il fortifiait, on lit ça dans Actes 14, il fortifiait le cœur des croyants, les encourageait à demeurer fermes dans la foi, et leur disait, nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc pas des souffrances, vous rappelez, pour ajouter à l'expiation de nos péchés, comme si Christ n'avait pas tout accompli, mais des souffrances pour faire connaître le message de l'Évangile autour de nous. Des souffrances parce que Christ est visé dans l'Église, dans notre cœur. Le diable continue de s'opposer à lui, même s'il est le roi souverain, choisi par Dieu, qui a accompli parfaitement sa mission, il reste encore contesté pour un temps. Alors si on ressent ce combat, c'est tout à fait normal. Si nous expérimentons des souffrances en particulier pour faire connaître l'Évangile dans le monde, c'est normal, même ici, à Carême, au XXIe siècle. Si Christ est suprême dans l'univers, ça n'empêche pas qu'il est aussi contesté pour un temps encore. Alors Paul veut qu'il sache qu'il y a un grand combat, pour qu'il sache que même s'ils sont déjà réconciliés, ils ne sont pas encore glorifiés. Le royaume n'a pas fini, si vous voulez, d'être établi. Il est inauguré, mais pas totalement installé sur l'ensemble de la création. La lutte, alors, elle reste, elle est normale dans ce temps-ci. Mais elle est grande. À quel point je combats pour vous, dit Paul. Elle n'est pas le signe de la désapprobation ou de la colère de Dieu. On a chanté, et la Bible le dit clairement, c'est le message de l'Évangile. Dieu a donné son Fils pour tout réconcilier avec lui-même. Il n'y a plus de condamnation pour le péché, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors si notre foi est éprouvée comme on éprouve l'or des matériaux précieux pour enlever les scories, les impuretés, Dieu nous donne aussi la grâce de supporter toutes ces difficultés, ces obstacles, ces souffrances. Paul veut qu'ils sachent aussi quel grand combat il est en train de mener, parce que c'est un combat pour eux, vous avez remarqué ? C'est pas juste son combat personnel à lui, à l'apôtre Paul, mais c'est un combat en leur faveur, en faveur des chrétiens de Colosse, de Laodicée, même de tout un tas de gens qui n'ont même jamais vu son visage, qui ne connaissent pas personnellement Paul. Paul est en train de souffrir pour eux. En quelque sorte, il est en train de dire « Je vous aime à ce point-là, que je suis prêt à mener ce combat. Je serai tranquille de rester chez moi à la maison, de vaquer à mes occupations, mais je combats pour vous, parce que la cause de l'Évangile en vaut la peine, parce que vous êtes précieux à mes yeux, et vous valez la peine que je me dépense pour vous. » Paul est en train de dire ça, pas pour leur mettre la honte, mais au contraire, pour leur dire « je vous aime beaucoup. » Paul, enfin, attire l'attention des Colossiens sur ce combat afin que, on lit ça au verset 2, ils soient encouragés. Et si on est en train de dire « mais il y a un combat », alors l'apôtre Paul est en train de combattre, toi tu es en train de combattre, on se dit « voilà quel encouragement il y a, on est tous dans la galère, c'est pas très, très encourageant quoi ». Le problème, je pense, c'est de comprendre le contexte de l'église de Colosse. Parce que Paul, quand il est en train d'écrire ça, il est en prison. C'est pas très glorieux pour quelqu'un qui dit, voilà, je souffre. Mais t'es en prison. Pourquoi t'es en prison, Paul? Paul est en prison parce qu'il est en train de servir l'évangile. Parce qu'il est en train d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Pas parce qu'il a fait des choses mauvaises. Pas parce qu'il a été pris, parce qu'il était quelqu'un de corrompu. Pas parce qu'il a fait des crimes. Et peut-être que certains dans l'église de Colosse sont en train de venir dire que peut-être que l'enseignement de l'évangile que Paul défend n'est pas tout à fait vrai. Comment ça se fait qu'il est en prison? Si Dieu est avec lui, si c'est l'apôtre choisi par Dieu, ils sont en train de minimiser l'enseignement de l'apôtre en partie. Et les chrétiens de Colosse peuvent être encouragés en sachant le combat que Paul est en train de mener pour eux. Même s'il est en prison, en fait, il est bel et bien un serviteur choisi par Dieu. Ils peuvent être encouragés et non découragés. Les paroles qu'ils sont en train de lire sont vraies. Elles sont celles d'un homme qui est apôtre par la volonté de Dieu. On voit ça dans le Colossiens chapitre 1, verset 1. N'est pas quelqu'un qui est venu de lui-même apporter toutes ces paroles, mais c'est inspiré par Dieu qu'il est en train d'écrire cette lettre aux Colossiens. Est-ce que vous comprenez? Paul est en train de dire « Ayez foi dans ce que je suis en train de vous dire, parce que ça vient de Dieu. » Les faux enseignants qui étaient dans l'église de Colosse venaient proposer de vivre des choses un peu plus exaltantes que le combat et la souffrance. Des nouvelles expériences basées sur d'autres vérités qui, dans un sens, ressemblaient un peu à la Bible, mais qui n'étaient pas la Bible. Qui, dans un sens, semblaient être la continuité de l'Évangile, mais en fait qui en reniaient les fondements et la puissance. Qui, dans un sens, était beaucoup plus exaltant. Il y avait apparemment un culte des anges, des personnes où on pouvait entrer en communication avec le monde spirituel invisible. Bon, ça, c'est mieux que l'idée de combattre pour l'Évangile, de devoir souffrir pour la cause de l'Évangile. Donc, Paul est en train de dire de faire attention. Et ces paroles font un peu écho aussi à 2 Timothée, donc chapitre 3, verset 5. Paul justement avertit Timothée en disant que certains auront l'apparence de la piété dans les temps de la fin, mais renieront ce qui en fait la force. Il faut s'éloigner de ces gens. Le combat, la lutte avec le diable, elle est des fois frontale, des fois elle est un peu plus déguisée, parce qu'il se transforme, il se présente comme un ange de lumière, comme quelqu'un qui vient pour éclairer. Et donc il n'est pas étrange que ses serviteurs se déguisent aussi en serviteurs de la justice, mais sans vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, comme on l'a été rappelé la semaine dernière dans le psaume 119. Alors, l'apôtre Paul dit, voyez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous. De quel combat est-ce qu'il s'agit? Il y a une partie de ce qu'on a déjà vu dans la lettre, c'est ce combat de aller au-devant des autres qui ne connaissent pas l'Évangile, pour leur faire connaître. Pour leur faire connaître en parole et pour leur faire connaître dans nos attitudes et nos actes, qu'ils puissent voir aussi l'Évangile quand ils voient l'Église en train de vivre à côté d'eux. Et ce combat se mène aussi avec la prière. Il y a Épaphras, donc le compagnon des Colossiens qui est venu trouver Paul à Rome. Il ne cesse, dit l'apôtre Paul, de combattre pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon. C'est le chapitre 4 et au verset 12. Il se dépense sans compter, dit l'apôtre Paul. Dans une autre de ses lettres, dans Romains au chapitre 15, verset 30, Paul écrit aux Romains, « Combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Donc, ce combat, il se vit dans la prière, c'est le combat d'une prière qui fait que on devient disposé à faire la volonté de Dieu. Et cette lutte-là, elle rencontre une résistance dans notre cœur, il reste du péché en nous. On doit prier pour soi-même et on veut prier les uns pour les autres aussi, pour que chacun puisse accomplir son service pour le Seigneur, dans la liberté que Dieu lui-même donne. Tout cela, on veut le faire, on veut combattre avec la force de Christ qui agit en nous. Paul est en train de prier et il s'appuie sur la force de Christ en lui pour faire ça. Peut-être aussi quand il est en train d'écrire. Bien sûr, il est en train de s'appuyer sur la force de Christ. Il est en prison, il aurait des tas d'autres choses peut-être à penser à sa propre vie, mais là il est en train de faire tous ses efforts, de faire parvenir cette lettre pour protéger les chrétiens de Colosse, pour les affermir dans la foi, pour les encourager. Et tout cela, ça demande l'effort de préparer, d'écrire, de préparer Tychique et Onésime qui vont venir apporter cette lettre et apporter les enseignements de Paul dans son absence. Voilà pourquoi Paul parle ici. Il faut qu'ils sachent, les chrétiens de Colosse, non seulement le combat de Paul pour être rassurés, mais aussi pour s'associer à lui. Pour que eux aussi orientent leur force et leur combat dans la bonne direction. Pour qu'ils demeurent fermes dans la foi en Christ. Il n'y a pas d'autre alternative. La nouvelle naissance va conduire à l'édification, au fait de grandir, de devenir adulte, de devenir développé par opposition au statut d'un bébé. Les deux choses vont ensemble. C'est ça, combattre le bon combat, comme dit Paul dans une autre épître. C'est ça la vie chrétienne, c'est tenir ferme contre les ruses du diable, de garder le terrain acquis par la victoire de Christ et de l'occuper de plus en plus pleinement. Alors Paul dit, je combats afin que, unis dans l'amour, les chrétiens de Colosse, de Laodicée, même tous ceux qui n'ont pas vu son visage, soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. Il combat pour qu'ils soient unis dans l'amour. Pour que les chrétiens de Colosse aient de l'affection les uns pour les autres. Cette affection les uns pour les autres, elle découle d'une compréhension de l'amour de Christ, de ses souffrances qu'il a accepté d'endurer pour nous, en notre faveur, et qu'il continue d'endurer pour son Église. C'est cette compréhension des souffrances aussi de Paul, de ce serviteur de Dieu, aux yeux même du monde, cette affection, cette unité qui lie les frères et les sœurs dans l'Église, montre cet amour de Christ pour son corps et pour tout ce qu'il veut sauver. Donc ça conduit à plus de connaissances. Je prie que Paul combat pour que, uni dans l'amour, il soit encouragé et qu'il soit enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Vous avez compris, le mystère dont il est question n'est plus un mystère maintenant. C'est quelque chose qui nous a été révélé. C'est l'Évangile, c'est comment un Dieu juste peut déclarer juste des hommes et des femmes pécheurs. C'est par le sang de son Fils, son corps qui a été donné, brisé à la croix pour le salut d'un grand nombre. C'est non seulement le fait que notre dette est réglée par la croix, mais aussi que nous sommes réconciliés. Nous sommes maintenant en bon terme. La Bible parle de l'adoption. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Dieu lui-même maintenant prend soin de nous. Nous sommes ses enfants, des fils et des filles bien-aimés en Jésus-Christ. Christ est en nous. Nous sommes en Christ. Nous demeurons en lui. C'est l'espérance pour notre avenir. Il n'y a pas de grande progression dans la compréhension de l'Évangile quand il n'y a pas d'instruction. On va tous être d'accord, je crois. Mais il n'y a pas non plus de croissance de l'Évangile dans le cœur des croyants quand il n'y a pas d'unité. Ou alors, c'est affaibli, c'est pas aussi ferme que ça pourrait l'être. Connaître Christ, bien quand on y pense, quand on y réfléchit, mais aussi quand on l'aime lui, et qu'on voit son âme, et que cet amour nous pousse à aimer tout ce qu'il a sauvé autour de nous. Et cette unité alors conduit aussi à du courage. Du courage pour chacun, personnellement, individuellement, quand on y réfléchit à tout ce que Dieu a fait pour nous, mais aussi pour aller ensemble de l'avant dans la mission que Dieu confie à son Église. Donc, cette unité et cette connaissance plus profonde et personnelle produisent le courage dont on a besoin. Si on veut accéder à tous les trésors de la sagesse et de la connaissance qui sont en Jésus, il faut expérimenter l'amour qui doit unir les membres du corps de Christ. Dans l'Église, Christ exprime son amour à chacune des membres, à chacun et chacune des membres par les autres membres. Ce qu'Aminata nous a partagé, c'est chouette que même Dieu est capable d'utiliser des non-chrétiens pour donner une parole un peu d'exhortation, de réflexion qui stimule la foi. Mais c'est ce qu'on aimerait vivre, c'est ce qu'on vit et ce qu'on veut vivre de plus en plus dans l'Église de Carignan. On s'encourage les uns les autres à expérimenter cet amour qui vient de Dieu. C'est ainsi que tout son corps doit bien fonctionner. La connaissance de la personnalité de Dieu, généreux, bon, de son caractère bienveillant, vient par ce moyen. C'est donc à Christ qu'il faut regarder, et non dans d'autres soi-disant ressources, comme pouvaient le prétendre les faux enseignants qui gravitaient autour de l'Église de Colosse. Leur discours est séduisant, attractif, mais il est quand même faux. C'est pas l'emballage qui compte, n'est-ce pas, quand vous ouvrez votre cadeau à Noël, si vous avez un cadeau à Noël. C'est pas l'emballage qui compte, mais c'est le paquet, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Que les faux enseignants pouvaient dire pouvait sembler attirant et valorisant, mais la réalité, c'est le verset 3. C'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, qui vont nous donner les ressources pour le combat, qui vont nous donner les ressources pour l'unité, qui vont nous donner les ressources pour le courage, la fermeté dont nous avons besoin. Donc, chapitre 2, toujours de Colossiens, un petit peu plus loin, verset 19, il y a Paul qui avertit les chrétiens de Colosse en parlant des faux enseignants, en disant « Il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. » Cette unité qui dépend d'être connectée avec la tête qui est Christ. Vous connaissez ce passage d'Éphésiens 4, 16 qui fait un peu écho. En disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Paul dit au verset 5 que il dit ceci, en effet, même si je suis absent de corps, s'il n'est pas physiquement présent à Colosse, il est loin dans sa prison à Rome, il se soucie de ce qui se passe à Colosse, il est avec eux en esprit. Il dit, et je vois le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Il est en train de dire, je me soucie de votre vie chrétienne sur le long terme. J'étais pas juste content d'apprendre que Epaphras, que j'avais formé, est venu chez vous, que vous avez entendu l'évangile, qu'il y a maintenant une église à Colosse. Je suis pas juste content d'avoir pu cocher sur la carte, mettre une petite pastille, dire, ouais, il est super, il y a une église à Colosse. Et après de compter les églises et dire, ouais, tout ça grâce à mon ministère. Il se soucie du quotidien de la vie des chrétiens de Colosse. Il se soucie de leur vie sur le long terme. C'est un trait pastoral de Paul, son amour qui se manifeste de nouveau pour lui. C'est bien différent de ceux qui se souciaient plus des pratiques religieuses, du bon suivi d'une tradition des hommes, qui se souciaient plus de l'accomplissement des rituels et qui semaient du trouble dans l'église de Colosse. On s'attend à voir dans l'église de l'ordre et non chacun qui va de son côté. On s'attend, puisque c'est un corps, à le voir fonctionner en synergie, avancer dans la même direction, et non pas voir des parties disloquées à droite et à gauche. Et c'est ce que Paul voit chez les chrétiens de Colosse, et il veut encourager ça. Je vois le bon ordre qui règne parmi vous, la fermeté de votre foi, et tout ça c'est lié au fait qu'ils sont en Christ, qu'ils sont attachés à la tête qui est Christ. C'est une image de l'Église, n'est-ce pas? C'est ça, à ça que nous voulons ressembler. Un ensemble de personnes déterminées dans la foi, convaincues de la vérité de l'Évangile, tellement convaincues que ça charpente, ça façonne tout le reste de leur existence. Des personnes qui sont personnellement, affectivement, si vous voulez, attachées à la personne de Christ, bien qu'elles ne puissent pas le voir. Ils lui parlent, ils l'écoutent, ils obéissent à sa parole. Fermes et persévérants dans leur disposition sur le long terme. Ça, c'est l'image parfaite de l'Église. Et c'est seulement possible avec la foi, avec la vision de la condition de notre vie, de cette réalité marquée encore par le péché, mais aussi l'espérance de la gloire, de la vie nouvelle qui a commencé à jaillir dans nos cœurs. Notre style de vie qui commence aujourd'hui et qui sera pleinement épanoui par le retour de Christ. Alors, Paul arrive au verset 6 en disant, ben voilà, ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Juste pour redire encore une fois, d'une autre manière, peut-être les morts ne marchent pas. Il faut qu'il y ait régénération, il faut qu'il y ait nouvelle naissance, il faut qu'il y ait changement du cœur pour qu'il se remette à battre. Parce que on peut essayer d'animer un mort, mais on est obligé de lui attacher des ficelles ou je ne sais pas quoi. Il ne peut pas s'animer lui-même. Il n'y a plus de vie en lui. On était morts du fait de nos offenses. Ennemis, étrangers de Dieu, séparés de lui. Et maintenant, il nous a ramenés à la vie. Il nous a fait, il nous a transportés dans le royaume de la vie et de la lumière. Donc, juste pour dire, si on veut marcher en Jésus, si on veut progresser dans la sanctification, si on veut progresser dans la vie chrétienne, s'il n'y a pas de nouvelle naissance, c'est même pas la peine d'espérer voir quelque chose arriver. nouvelle naissance, c'est pas juste une compréhension intellectuelle des concepts de l'évangile, on est capable de raisonner sur ces choses-là comme si c'était une philosophie, mais c'est une vraie prise de conscience de qui on est sans Dieu, de l'état de notre cœur et de notre vie marquée par le péché, de notre besoin d'un sauveur, de ce fait, et qui n'est pas seulement quelqu'un qui viendra nous donner un coup de pouce pour nous améliorer, mais qui peut réellement prendre en charge tout notre passé pour nous donner une justice parfaite. Comprenez, l'idée, c'est pas juste quelqu'un d'un peu familier, parce que tout le temps là, et même quand on est non-chrétien, on a une conscience que Dieu est là, donc dans un sens, ça nous semblerait naturel de nous approcher de lui. C'est pour ça qu'on a été fait, qu'on a été créé. Quand on a grandi dans une famille chrétienne aussi, on a dans un sens toujours entendu parler de Dieu, alors on estime qu'il est un peu toujours là, mais est-ce qu'on a fait vraiment cette expérience de une prise de conscience de qui on est véritablement et de notre besoin de salut? Paul dit, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, il faut qu'on reçoive cette vie nouvelle qui vient de Jésus. Quand nous sommes en dehors de Jésus, nous sommes en Adam. Quand nous ne sommes pas en train de marcher en Jésus, on est en train de marcher en Adam, selon notre ancienne nature, pour utiliser du vocabulaire, un autre type de vocabulaire de la Bible. Et qu'est-ce qu'on a en Adam? C'est quoi notre ancienne nature? C'est une identité d'injustice. La Bible nous dit que tout ce que Adam a fait comme notre représentant, en particulier avec cet épisode du Jardin d'Éden, nous a été mis à notre compte. Et depuis, on a suivi dans sa voie. Par Adam, le péché est entré dans le monde et tout son péché, nous dit la Bible. Donc, si vous voulez, c'est comme si Adam nous a taillé un costume, si vous voyez l'image. C'est pas forcément à notre taille de départ, mais il nous a été donné. Et on va le remplir de plus en plus, parce qu'on va manger, on va remplir toutes les parties de qui sont formées par ce tissu. Donc, si vous voulez une autre image, Adam nous a laissé une maison, et on l'a meublée, on a commencé à occuper toutes les pièces de la maison. On a pris nos quartiers dans tous les coins et recoins de la maison qui nous a été léguée par Adam, mais c'est une maison qui n'est pas construite selon les normes de Dieu, selon la volonté de Dieu. Mais le nouvel Adam, Jésus, nous donne une vie parfaitement juste. De nouveau, c'est comme si il a fait le modèle et il nous l'a donné à l'identique. Tout ce que Christ a fait en tant que notre représentant, Dieu l'a mis aussi à notre compte. C'est comme si nous l'avions fait nous-mêmes. Et dans la gloire, on va remplir totalement notre nouveau costume, notre nouvelle identité. Toute l'habitation de notre être sera pleine de la justice, de la paix, de la vérité, de la joie, de l'amour, de la bonté, de la maîtrise de soi, de tous les trésors que Jésus nous a acquis. Christ a fait ça pour nous dans le passé, si vous voulez, une fois pour toutes à la croix. Et maintenant, Christ ressuscité met à notre disposition toutes les ressources bonnes et puissances, les ressources divines dont on a besoin pour vivre la vie chrétienne, pour remplir cette identité qui nous a été donnée par Jésus. J'ai utilisé l'idée d'un costume, peut-être Adam qui prend de l'embonpoint, qui finit par remplir tout. Peut-être pour une image un peu plus positive, c'est comme si on a reçu un jogging, peut-être un peu large au début, mais à force de courir, à force de marcher, à force d'écouter la parole de Dieu, d'être au bon régime de sa parole, on va développer du muscle, on va rentrer parfaitement dans ce vêtement. Un vêtement qui nous permet d'aller de l'avant. Si nous sommes liés à Christ, on va commencer à vivre de sa vie en nous. C'est lui même qui va produire ça. J'ai entendu quelqu'un raconter cette illustration, je trouvais qu'elle était bien parlante, je vais essayer de vous la redonner ici, d'un homme, imaginez un homme qui se fait surprendre par des vauriens, des méchants, qui l'agressent, qui le bat, il le bat tellement qu'il finit par être sonné et tombé dans une sorte de coma. Et au lieu de juste abandonner cet homme-là sur la route, ces hommes méchants sont tellement méchants qu'ils vont jusqu'au bord d'un lac et ils jettent cet homme au bord du lac. Il est recouvert par l'eau, complètement sonné, complètement assommé dans le coma. La suite tragique de l'histoire serait qu'il meurt, n'est-ce pas? Non seulement parce qu'il est sonné, et en plus il est recouvert par l'eau, l'air ne peut plus parvenir à ses poumons. Si ses fonctions vitales inconscientes continuent de fonctionner, là maintenant il est plongé dans l'eau. Mais voilà que ce qui se passe, c'est que quand il arrive dans l'eau, le froid de l'eau, le choc le ramène à ses sens, et il se redresse, il sort tout juste la tête de l'eau pour respirer d'un coup une grande bouffée d'air. Il y a comme une prise de conscience du milieu dans lequel il était, et le voilà qui relève la tête hors de l'eau. Sa tête est hors de l'eau. Il est revenu à une forme de conscience. Qu'est-ce qui va arriver à cet homme? Il va vivre ou il va mourir? Il va vivre, n'est-ce pas? Parce que il est dans le milieu qui correspond à la vie. Son corps est encore immergé dans l'eau. Le reste de son corps est dans un autre milieu, mais sa tête est déjà sortie de l'eau. Elle voit clair. Elle respire. Et bientôt cet homme, quand il a repris les forces, il va se lever, il ne va pas en rester juste là, il va sortir de l'eau, et il va pouvoir poursuivre sa route. C'est un peu la même chose pour nous, pour le corps qui est l'Église, Christ, qui est la tête, est déjà ressuscité, il siège déjà à la droite de Dieu. Par lui, quand nous sommes connectés avec lui, nous recevons tout l'air, toute la vision dont on a besoin pour toutes les autres parties du corps. L'Église, elle est en train de vivre parce que Christ est déjà ressuscité. Et si on raisonne pour nous, personnellement, il y a déjà des choses qui ont commencé à être en nous. Dieu nous a sorti la tête de l'eau par la nouvelle naissance. On est entré déjà dans le royaume de lumière. On commence déjà à expérimenter le nouvel environnement, la nouvelle création que Dieu a en prévision pour nous. En même temps, le reste de notre corps n'est peut-être pas encore tout à fait sorti de l'eau, mais ça va se faire, n'est-ce pas? Parce qu'on a toutes les ressources dont on a besoin pour y aller. Tout ce que Dieu nous a acquis en Jésus-Christ aura donc un changement radical dans la sphère dans laquelle se déroule notre existence. Quand on devient chrétien, c'est comme entrer dans la nouveauté du monde à venir et en faire l'expérience jusqu'à un certain point dans notre vie maintenant. Faire l'expérience de la puissance du royaume de Dieu dans chaque aspect de notre vie. Ça signifie que chacune de nos actions maintenant peut être accomplie en Christ, si elle l'est par la puissance de ce royaume, d'une manière qui honore Christ. Donc c'est ça que Paul est en train de dire. Comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Verset 7, il nous faut être enracinés et fondés en lui. Par l'affermissement de notre foi qui est le lien, justement, qui nous connecte à Christ, qui fait que nous vivons cette union avec lui. Et notre foi elle-même est soutenue par la parole. Voyez, tenez ferme dans les instructions qui vous ont été données, c'est-à-dire la Bible et les prédications de la Bible que les chrétiens de Colosse ont reçues de la part des serviteurs chargés par Dieu pour cette tâche. Soyez enracinés et fondés en lui, dit Paul, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Donc en puisant les ressources en Jésus-Christ. Alors on doit demeurer en Christ, mais n'oubliez pas qu'il n'est pas loin de nous. Le chemin n'est pas long, car lui aussi, il a fait sa demeure en nous. On l'a lu, c'est le verset 27. Christ est en vous, dit Paul. Christ lui-même nous rend capables de vivre la vie chrétienne, la vie de confiance et d'obéissance joyeuse à la parole de Dieu. Une vie qui modèle et rend visible à nouveau que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes restaurés à l'image de Dieu. Si on est appelé à marcher, à progresser, à grandir, devenir des hommes faits ou des femmes mûres dans la foi. Juste pour terminer, je voudrais mettre quelques guides pour qu'on comprenne tout ça. Il n'y a pas de changement parfait qui soit déjà accompli dans la réalité de notre existence. Si au moment de la nouvelle naissance, on recevait aussi tout de suite la perfection parfaite, Paul n'aurait pas besoin de lancer cette exhortation. Marchez en lui. Soyez enracinés, fondés en lui. C'est comme des commandements, si vous voulez. C'est des choses qu'on doit faire. Donc, il ne faut pas croire que la nouvelle naissance égale tout de suite j'arrive à la perfection. La nouvelle naissance, c'est une chose importante, réelle. Et elle nous conduit justement. De ça va découler le fait qu'on va vouloir même marcher et qu'on va avoir les ressources pour marcher d'une manière qui plaît à Dieu. Donc ça, c'est un premier guide. Le deuxième guide que je voudrais mettre, c'est qu'il n'y a pas non plus de perfectionnisme possible dans cette vie. C'est impossible pour nous, en tant que chrétiens, de dire que je vais tellement bien marcher avec Jésus que dans 10 ans, c'est bon. Je vais atteindre la perfection. Donc j'aurais fait ma part et je vais y arriver par moi-même. J'aurais bien aimé que ce soit autrement pour moi-même, et puis parce que ça nous encouragerait tous. Mais par contre, si nous ne pouvons pas atteindre la perfection dans cette vie, nous sommes quand même appelés à la chercher. À ne pas la chercher en dehors de Christ, mais à la chercher en lui. Et c'est important de voir que justement Christ ne dédaigne pas d'être en nous, de vivre avec nous, alors que nous ne sommes pas encore parfaits. Au verset 27 du chapitre 1, Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère, c'est-à-dire Christ en nous, c'est déjà maintenant. Quel encouragement de savoir que celui qui veut notre bien, celui qui va nous amener à la perfection, est déjà en train d'agir, d'intervenir dans notre vie. Mais Christ en nous aujourd'hui, c'est l'espérance de la gloire, et cette gloire et cette justice parfaite, cette perfection dans la sainteté que nous aurons, elle est encore à venir. Il y a déjà des choses qui ont changé dans notre vie, et quand Jésus revient, il nous transformera, il nous rendra entièrement saints et purs selon ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Alors, nous ne nous arrêtons pas en chemin parce que Christ est en nous par l'Esprit Saint. Nous ne nous arrêtons pas en chemin parce que on ne pourrait pas atteindre la perfection aujourd'hui. Peut-être si on n'atteint pas la perfection dans cette vie, on peut quand même progresser, montrer la réalité de la vie de Christ et goûter tous les bienfaits, toute la joie de l'avoir en train d'agir dans nos cœurs. On va goûter en particulier cela quand on va le faire de façon unie. On va trouver du courage, on va trouver de l'affermissement pour notre foi dans ce monde. Que Dieu alors nous donne cette grâce et nous garde dans ce combat. Je voudrais prier encore pour nous. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. Et soyez en riche en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Père Céleste, nous te bénissons que tu as déjà ressuscité un homme d'entre les morts. Que cet homme siège à ta droite, c'est ton Fils bien-aimé, celui qui a le premier rang en toute chose, le premier-né de l'Église et de toute la création. Et nous te louons pour la foi, le don de la foi, qui nous vient par la connaissance de ta parole, par l'action puissante de ton esprit dans nos cœurs, qui nous connecte à cet homme, le premier-né de toute la création. Merci parce que tu as déjà relevé nos têtes de la mort. Merci parce que tu vas poursuivre ton action pour que nous soyons entièrement sortis des ténèbres, que nous sommes totalement débarrassés des marques du péché qui demeurent encore en nous. Merci parce que même si nous ne pouvons pas avoir la perfection dans cette vie, si nous savons qu'un jour nous la goûterons, vraiment. Et nous te remercions pour tout ce que tu fais, pour tout le combat que tu mènes, toi, Seigneur Jésus-Christ, dans ton Église, pour nous perfectionner, pour nous faire grandir, pour nous faire arriver à la maturité, à l'état d'adulte, dans la foi. Nous prions que tu continues ton action dans nos cœurs, en particulier cette semaine, ces prochains jours. Seigneur, s'il te plaît, viens, et fais-nous du bien. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.